France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Christian Ivaldi, je suis né le 2 septembre 1938, je suis pianiste, je suis enseignant et aussi mélomane et amateur d'art.
Christian Ivaldi.
Il y a deux classes qui ont été déterminantes pour les choix que je pressentais déjà confusément. Ça a été la classe de Jacques Février en musique de chambre. Jacques était un personnage haut en couleur, qui était tout à fait marginal au conservatoire. D'ailleurs, il était détesté par les profs de piano, parce qu'on savait que les étudiants, les classes de piano, allaient secrètement travailler chez lui.
Mais parce qu'il était pianiste, professeur de musique de chambre, mais grand pianiste.
Ah oui, oui, il a fait une carrière. Il était, mais c'est quelqu'un qui avait pas, comment dire, il n'avait pas la virtuosité qu'avait dans son, à son époque d'autres enseignants justement au conservatoire que Jeanne-Marie Daré ou Alain Van Barenzen. Jacques est quelqu'un qui devait, je pense, travailler plus que d'autres et ça faisait de lui justement un enseignant extraordinaire. Et j'ai découvert chez lui en particulier Brahms, qui n'était jamais joué à l'époque dans les classes de piano. Dans les classes de piano, on jouait Schumann, Liszt et Chopin. Mais jamais Brahms et encore moins Schubert. Et Jacques était un grand mondain, qui était un personnage qui se positionnait volontairement contre le conservatoire. Alors quand on faisait quelque chose qui lui plaisait pas, ah oui, mais tu te crois au conservatoire ici, enfin, alors qu'on était au sein de la rue de Madrid, puisqu'à l'époque c'est là qu'on était.
C'était un ami d'enfance de Poulenc.
Oui, j'ai connu Poulenc par lui, oui. Oui. Et puis l'autre classe, ça a été la classe d'accompagnement au piano, Henriette Pigroget. J'ai manqué, entre guillemets, Nadia Boulanger à 2 ans d'intervalle, parce que Nadia avait arrêté... Mais avec Henriette, ça a été formidable. C'était une classe que j'adorais, où malheureusement, je suis passé à toute allure. Je suis resté 6 mois et j'étais très déçu parce que j'avais envie de rester dans cette classe plus longtemps. Quoi. À l'époque, on pouvait sortir en un an des classes et bon, malheureusement, c'était comme ça, très rapide. Et Henriette, c'était une classe de vraiment professionnelle, de métier, d'un certain rapport au clavier pour être prêt à toutes les situations. C'est ça le principe de la classe d'accompagnement, partition d'orchestre, transposition, déchiffrage difficile, etc.
Henriette, j'avais aussi lu qu'elle avait été chef de chant à l'Opéra de Paris.
Ah, mais elle a fait plein de choses, c'était incroyable.
Elle était pianiste à la radio.
Oui, oui, et organiste aussi.
Organiste
elle était titulaire
également,
du temple qui est de l'oratoire.
L'oratoire.
C'est incroyable, elle travaillait, mais vraiment, moi, les dernières fois où je l'ai vue, c'est quand j'ai commencé à aller au Japon, elle est partie pour
elle
le Japon.
Elle a une période japonaise, oui.
Ah, qui a duré 10 ans. Elle est partie invitée au Japon pour 6 mois, et elle y est restée 10 ans. Elle dormait sur un tatami, et puis elle m'a donné une vie de folle. Là-bas, c'était incroyable. Je me souviens, une fois, elle est revenue chez elle pour me faire un steak, parce que ensuite, elle m'a accompagné dans le métro, descendait, elle avait peur que je me perde, parce que c'est toujours un peu compliqué, là. Un métro dans un pays étranger. Ouais, c'était un personnage incroyable. J'ai connu assez vite une femme qui a été vraiment déterminante pour moi, qui est Geneviève Joie, la femme d'Henri Dutilleux, qui a fait finalement pour moi, pour me mettre en selle, plus que certains de mes enseignants. Enfin, Elle m'a fait connaître beaucoup de compositeurs, en particulier Maurice Ohana, dont j'ai créé toutes les œuvres dans les années 60. Elle était spécialiste, entre guillemets, des noces de Stravinsky à l'époque. On lui disait souvent, on l'appelait Geneviève, est-ce que tu peux nous faire une équipe pour les noces? Et elle proposait des partenaires, et très vite, elle m'a associé à ça. Ce qui fait qu'à 21 ans, je me suis retrouvé sur la scène des Champs-Élysées ou de Chaillot, je ne sais plus, avec Charles Bruck, pour jouer avec elle les noces de Stravinsky, qui est une partition que j'adorais. J'ai eu l'occasion ensuite de jouer les noces avec Boulez, grâce à elle, et puis avec d'autres chefs, Dervaux, Plasson, des chefs étrangers aussi.
Vous avez aussi profité des cours de Joseph Calvet. Quel souvenir vous
oui.
en avez?
Alors, c'était un formidable musicien. Le personnage était un peu pompeux, un peu. Quand le téléphone sonnait, il disait que oui, que me veut-on. Enfin bon, il y avait de suite. Bon, c'était un peu. Mais un musicien formidable. Et j'ai fait sa classe avec Alain Meunier, qui est resté d'ailleurs un partenaire régulier, un ami. Au fil des décennies, on est toujours très liés, on a beaucoup joué ensemble dans différentes circonstances. Et Calvet, après ça, je me souviens, on faisait des séances de travail avec Alain des années après, et on disait, tu te souviens, Joseph disait ça. C'était que l'enseignement, quelquefois, on sème des graines, comme vous savez, et on comprend pas toujours sur le moment ce qui se passe. Et puis des années après, il y a une résurgence, il y a quelque chose qui remonte. C'est passionnant. Je pense qu'en tant qu'enseignant, il se passe la même chose avec ce que je peux éventuellement proposer à les étudiants.
Et alors, parlez-nous de votre professeur de piano quand même, parce que là, vous nous parlez de professeur d'accompagnement,
Oui,
de professeur
c'est
de
vrai,
musique de
c'est vrai.
chambre, de professeur de contrepoint, de tout ce qu'on veut,
Bien sûr.
mais pas du professeur de
Voilà,
piano.
bon,
C'est Aline alors.
alors, donc il y a eu Lucette Descaves, et grâce à Lucette, j'ai connu quelqu'un dont Jean-Claude Pentier a parlé d'ailleurs dans les entretiens qu'il a fait, et qui a été aussi très importante pour moi, c'est Louise Clavius Marius, qui était la femme du compositeur Tony Aubin, qu'on adorait absolument. C'était un personnage et une pédagogue magnifique. Je me souviens, je me revois sur le quai du métro École militaire, parce que j'habitais dans le 17e, comme je vous le disais, elle était rue Chevert. Et j'étais arrivé complètement déprimé chez elle, je sais pas, j'avais mal travaillé, j'arrivais pas à me sortir de je sais pas quel morceau, enfin bref. Je suis ressorti de chez elle 1 heure après. Je me revois assis sur le métro, mourant d'envie de me retrouver chez moi et de me précipiter sur le piano. Ce qui est vraiment l'indice d'un talent pédagogique, certain.
Ça, c'était nouveau parce que vous nous avez raconté, Christian Ivaldi, que le déclic, l'amour que vous avez développé, j'allais dire d'une façon autonome pour le piano, il n'est pas venu tout de suite. Ces
Attention,
moments-là, cette
oui,
gourmandise.
c'est pas un amour pour le piano. Hein. J'ai toujours professé avec rien de coquetterie que je détestais le piano. En revanche, pour moi, c'est un vecteur formidable que je
C'est un
changerais pour
outil.
rien au monde. Un vecteur, vraiment. C'est-à-dire, j'ai passé des heures dans les partitions piano et chant d'opéra, à lire l'intégrale des Quatuors de Beethoven sans se à quatre mains avec des copains. Enfin, voilà, je plains sincèrement les instruments monodiques de ne pas pouvoir faire ça. Moi, mais l'instrument ne me passionne pas comme beaucoup de mes collègues qui ont fait une magnifique carrière de soliste et qui savent ce que c'est que l'instrument. C'est à peine si je sais ce que sont des cordes croisées ou, enfin, si on me poussait un peu, on serait catastrophé du peu d'aptitude que j'ai à parler de l'instrument lui-même.
Sur ce rapport à l'instrument, Christian Ivaldi, et ce déclic qui vient de cet amour pour la musique et pas forcément du piano, est-ce que vous diriez que c'est finalement pas forcément un choix de départ?
Je crois que j'ai suivi la filière de façon un peu passive. On m'a mis au piano, bon très bien, on m'a mis au piano, je vais faire du piano. Ma mère qui voyageait beaucoup me faisait surveiller par des voisins qui disaient, ah non, non, il n'a pas travaillé, comment t'as pas travaillé? Enfin bon, voilà. Non, j'ai pas. Je peux pas dire que ça soit un choix. Après ça, ça a été un engagement, évidemment, quand j'ai eu le vrai déclic musical. Mais non, il n'y a pas eu de choix, vraiment. J'ai pas trépigné, contrairement à mon copain Georges Pludermacher, par exemple, dont les parents étaient très mélomanes et qui très vite est parti sur le piano. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de chance. C'est-à-dire que j'ai démarré très vite dans le métier. Je faisais ce que les pianistes n'avaient pas envie de faire. Alors, il y avait à l'époque, il y avait Bernard Gavotti, qui s'appelait Clarendon dans le Figaro, qui était un personnage assez conservateur, comme vous savez, mais qui avait une émission qui s'appelait à la télévision, qui s'appelait Les Grands Interprètes, et il m'avait pris en amitié. Il m'a fait régulièrement collaborer. J'ai connu deux artistes avec qui j'ai beaucoup travaillé à l'époque. C'était la chanteuse Rita Streich et le violoncelliste Maurice Gendron. Et j'ai travaillé avec eux un peu partout, plusieurs années. Et puis, j'ai fait une rencontre aussi, alors vraiment déterminante, c'est le flûtiste Michel Lebost. Michel avait 4 ans de plus que moi, il avait déjà eu des prix internationaux, il était déjà un peu connu, et ça m'a beaucoup aidé. Je l'ai suivi, il cherchait un partenaire. On s'est très bien entendu et on a commencé à faire pas mal de concerts. Mes premiers disques, je les ai faits avec lui. À partir de 65, on est allé aux États-Unis chaque année en tournée. Alors là, c'est une période où j'ai fait du clavecin. J'ai fait du clavecin, j'ai même fait les disques, ça doit être inaudible. Je l'ai fait comme ça avec les facilités que je pouvais avoir, mais enfin pas de façon approfondie, pas très sérieusement. Et parce que si vous voulez, si vous prenez le répertoire de la flûte, il n'y a rien au siècle, à la période romantique. Il y a des variations de Schubert qui sont pas du Schubert de première qualité. Il y a une sonate de Reinecke, mais enfin on en fait vite le tour. Donc faire l'impasse sur la période baroque pour la flûte, c'est dommage. Et en même temps, les basses chiffrées réalisées au piano, c'est pas passionnant pour le pianiste. Et il y avait l'exemple à l'époque de Rampal Veyron-Lacroix, qui avait une équipe où il faisait une première partie avec clavecin, une deuxième partie avec piano. Et on s'est dit avec Michel, pourquoi pas le faire? Et puis je me suis aperçu que c'était une galère pas possible, parce que je travaillais sur un clavecin, et puis j'allais avec Michel en province ou à l'étranger pour un programme de ce type, et je trouvais un instrument complètement différent. Enfin, j'étais pas préparé à ça. Bon, j'ai fait ça vraiment très mal, et je dirais que j'ai arrêté de faire du clavecin quand je me suis mis à vraiment aimer l'instrument, au fond. Mais ça m'a permis, d'ailleurs, par exemple, dans les années 70, d'avoir trois étés formidables au Festival d'Aix. Pour Don Giovanni, par exemple, j'étais dans la fosse pour faire le continuo avec les chanteurs. Ce n'est que plus tard que j'ai vraiment abordé un répertoire plus lourd de musique de chambre, comme l'Équateur de Brahms. Mais assez vite, par exemple, je jouais beaucoup la sonate de Bartok de piano-percussion. Alors que j'étais encore étudiant, on m'a laissé partir pour les tournées pour les Jeunesses musicales de France. Et ça, c'était aussi une école de métier magnifique. On partait 3 semaines, on faisait un circuit, tous les soirs le même programme. Une ou 2 heures de voiture dans la journée pour aller d'une ville à l'autre. Enfin, ça a été aussi quelque chose de vraiment formidable. J'ai même présenté des concerts quand il n'y avait pas de conférencier, c'était moi qui le faisais. Enfin, ça m'amusait.
Vous avez fait votre service militaire?
Oui. J'ai eu la chance, étant sur Cittère, d'échapper à la guerre d'Algérie, alors que j'avais des copains de mon âge ou de 2 ans de plus, qui ont passé 2 ans en Algérie. Moi, j'ai évité ça. Et j'étais, comme on dit, vilainement planqué, c'est-à-dire que j'étais pistonné. Et après, j'étais dans la marine après 2 ans, deux mois de classe à Hourtin, dans les Landes. J'étais au ministère de la Marine, j'étais matelot secrétaire de la section scientifique, rue Royale.
Ah oui, c'est pas
Qui
mal,
m'a
place de la
permis de rester à
Concorde.
Paris. Voilà,
Oui.
voilà.
France Musique. les grands entretiens de Christian Ivaldi.
Quand j'ai quitté le conservatoire, je me suis tout de même aperçu que qu'il y avait beaucoup de domaines qui m'ont passionné après et que dont on m'avait pas du tout parlé. Il faut voir que ce qu'était un peu l'institution, c'est intéressant à l'époque. Quand je suis entré, c'était Claude Delvincourt qui s'est tué assez vite dans un accident de voiture. Et ensuite, ça a été Raymond Loucher pendant 6 ans, je crois, à peu près, ou 8 ans peut-être. Raymond Loucher était prix de Rome. Et il faut voir que la musique contemporaine au sein du conservatoire, c'était vraiment la musique des prix de Rome. Alors, il y avait des gens talentueux, il y en avait d'autres qui l'étaient moins. Et la décision de Raymond Loucher était que les prix de Rome devaient avoir un poste au conservatoire. Ce qui fait que tout ce qui était classe d'analyse, classe d'écriture, classe de solfège, était tenu par les prix de Rome. Le seul compositeur contemporain qui était un peu intégré dans les classes de piano, c'était Messiaen. Mais pas de Boulez, pas Stockhausen, pas Berlioz, pas enfin tout ce que j'ai connu après. Voilà. Et alors, en fait, sur le plan musique contemporaine, j'ai eu aussi une rencontre importante qui a été Gilbert Ami, avec qui j'étais en classe d'accompagnement, qui est resté un copain très proche. Et Gilbert a repris le domaine musical. Je ne sais pas si on sait encore ce qu'était le domaine musical, qui a été fondé par Boulez dans les années 50 avec Jean-Louis Barrault et Imogène Renault. Et Boulez, qui était débordé, il faisait une carrière magnifique, a arrêté, je crois, en 67, et c'est Gilbert qui a repris le domaine. Et j'y ai joué régulièrement, souvent accompagné de Pouler Marer, d'ailleurs, dont je parlais tout à l'heure, parce que on faisait des concerts de piano quatre mains, et Gilbert avait souvent des œuvres dans lesquelles il y avait deux pianos, avec des cadences importantes, et donc pendant 5-6 ans, il y avait aussi le Festival de Royan à l'époque pour la musique contemporaine, et j'y ai participé beaucoup.
L'ensemble Ars Nova aussi.
Oui, j'ai connu Marius Constant aussi par Geneviève Joie, et j'ai beaucoup travaillé avec Marius, l'ensemble Ars Nova, en effet.
Alors, Christian Ivaldi, ce rapport à la musique contemporaine, vous la jouez, on l'entend parce que aussi vous avez vite cette nécessité de travailler, mais est-ce qu'il y a aussi une part de militantisme, de se dire, je veux aussi jouer la musique de mon temps, ou ça, c'était pas du tout dans votre esprit?
Non, pour être honnête, j'ai pas été spécialement militant, mais j'ai jamais eu de... Pour moi, la musique contemporaine, c'était tout à fait naturel. Je jouais déjà des parties de piano pour des copains qui passaient le prix de Rome. Bon, c'était une évidence. Mais dire que je me suis promené avec des bannières, non, pas pour la musique contemporaine. Bon, en général, je suis pas très militant, d'ailleurs, quel que soit le domaine. Mais bon, c'était naturel, ça me semblait évident, oui.
Le rapport au compositeur, c'est tout de même une chance aussi.
C'est absolument passionnant et ça apprend beaucoup de choses. C'est très troublant. Enfin, quand on travaille avec les compositeurs, on se rend compte que ils sont pas complètement sûrs d'eux. Ils ont quand même besoin aussi de vérifier avec les interprètes ce qui se passe. Et je me souviens très bien d'une séance de travail avec Dutilleux. Je jouais les figures de résonance avec sa femme Geneviève. On devait les jouer dans un festival en Angleterre, et on commence, et puis Henri nous arrête et dit « Ah ben non, c'est pas ça, comment tu mets la pédale, Geneviève ?» Mais je comprends pas ce que tu veux, Geneviève était un peu brusque comme ça, mais bon. Ben non, il faut qu'on entende le son, mais qu'après il y a une coupure et que le son reste quand même. Ah bon, mais ce que tu veux, c'est une pédale syncopée, alors, mais faut pas l'écrire comme ça. Alors effectivement, ce qui est la rédaction de la pédale qu'il indiquait là, ne pouvait pas donner ce qu'il souhaitait avoir comme effet. Et j'ai retrouvé ça souvent avec des compositeurs. Et ça interroge aussi sur le respect du texte et sur le... Très souvent, on a, notamment en musique classique, le manuscrit et puis la première édition, avec des différences sensibles, souvent. Et il y a, par exemple, ça veut dire qu'entre le manuscrit et la première édition, à l'évidence, le compositeur a travaillé avec les interprètes quand il n'est pas lui-même un des instruments. Et il s'aperçoit qu'il y a des choses qui sonnent pas comme il le voulait ou qui sont simplement injouables. On sait que Ravel appelait tout le temps Hélène Jourdan-Morange quand il écrivait le Zigane pour vérifier si ce qu'il écrivait sonnait bien, etc.
Dans ce rapport au compositeur, Christian Ivaldi, est-ce que, d'une certaine façon, ça ne désinhibe pas par rapport au grand répertoire?
Bien sûr, oui, tout à fait. Bon, il y a des compositeurs plus ou moins certains de ce qu'ils veulent et plus ou moins aptes à le déterminer, à le rédiger, mais... Alors, en poussant l'extrême dans la relation interprète-compositeur, et ça, c'était très intéressant, j'ai créé avec Claude Armacher j'ai fait la création parisienne au domaine de l'archipel 1 pour deux pianos, deux percussions. Bon, qu'on a beaucoup joué, que j'ai joué aussi avec d'autres pianistes après. Et là, c'est André Bourgoin-Chêne ne voulait pas qu'on parle d'œuvre aléatoire. Il disait c'est une œuvre ouverte, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez vu la partition, on a plusieurs structures qu'on peut choisir à volonté, mais c'est aussi interactif, c'est-à-dire qu'on réagit les uns par rapport aux autres, au point où on ne peut pas, même si on le voulait, réaliser deux fois la même version. Alors et là, vraiment, l'interprète est complètement partenaire du compositeur. C'était vraiment passionnant à faire. J'ai beaucoup aimé ça. Ouais.
Boukhouresheviev, il était comment?
Ah, c'était un personnage très attachant, qui avait travaillé le piano avec Giskin, qui adorait le piano, qui était chaleureux, intelligent. Il a écrit des très beaux livres. Il était un peu paranoïaque, peut-être, pas toujours confortable. On le baptisait André Boukhouresheviev. C'était son surnom. J'ai même fait des tournées de jeunesse musicale avec lui. Où on jouait. Ma partenaire était Sylvaine Billier. On jouait la sonate de Bartok et on tout un programme autour de ça avec Archipel 1 pour deux pianos percussions. Et les percussionnistes à l'époque où j'ai commencé à jouer cette œuvre étaient Gualda, qui était un très très bon musicien, et Jean-Claude Casetu, qui était encore tabalier à l'époque.
Jouer aussi pas mal de Luis de Pablo, non?
Oui.
C'est un compositeur dont on parle peu.
Non, c'est vrai, c'est un type charmant. J'ai connu à Royan. On avait fait une création de lui, c'était du théâtre musical. J'ai toujours adoré faire du théâtre musical. D'ailleurs, dès qu'on peut quitter le tabouret de piano et marcher, il y a un peu les textes. Je me souviens, on était quatre pianistes. Il y avait Georges, donc Claude Armacher, Catherine Collard. Et Jacqueline Méfano, et on s'était bien amusé. Et par la suite, il y a eu un spectacle à l'Opéra Comique qui mélangeait alors une autre œuvre de Pablo où je jouais un rôle de pianiste. J'étais habillé en Paul Naref. J'avais du texte à dire. Bon, ça m'amusait beaucoup. Je crois que le spectacle n'était pas extraordinaire. Dans le même spectacle, il y avait le Syllabaire pour fête d'Oana que j'avais créé. Et plus tard, d'ailleurs, à l'Opéra Comique, il y a aussi une intégrale Satie à laquelle j'ai participé, une intégrale qui se passait en 48 heures.
Ce rapport au texte parlé, Christian Ivaldi, on entend que vous aimez le théâtre, que vous aimez le cinéma. J'allais dire, c'est un amour en toute discrétion, où il y a des moments où vous avez même eu peut-être velléité d'être sur scène, de prendre des cours de théâtre. Est-ce que si vous n'aviez pas été pianiste, vous auriez pu peut-être...
C'est pas impossible. Il m'arrive de relire des textes tout haut. Ça m'est arrivé encore récemment avec un passage de Proust qui est à hurler de rire. Et je relis tout haut, comme ça, je me lis ça pour le plaisir. Mais j'ai toujours aimé faire du théâtre musical et j'ai beaucoup travaillé autour de Satie à une période aussi. Il y a un livre d'écrit de Satie qui est une mine d'or et on peut soi-même monter des spectacles en choisissant les partitions, en travaillant sur l'enchaînement. En fait, ça, c'est très intéressant à faire.
Une gynopédie d'Eric Satie par Christian Ivaldi pour refermer ce deuxième épisode des grands entretiens avec le pianiste Christian Ivaldi. Réalisation Olivier Guérin, prise de son Arthur Gerbeau, mixage Valérie Lavalard, attachée de production Flora Sternadel. La suite de ce portrait, c'est demain à la même heure. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.